Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Tout de suite, le sommaire. Projet agricole de Bukangalonzo, un échec planifié dans sa conception. Révélation de l'inspecteur général des finances hier à Kinshasa. Téné, l'État a perdu plus de 200 millions de dollars et 6 personnes sont pointées du doigt, signale Jules Alinguete. Augmentation des cas de coronavirus au Congo central. En quelques semaines, 8 nouveaux cas se sont ajoutés aux 535 existants. Le ministre provincial de la Santé dit craindre le pire. Il invite la population à l'observance des gestes barrières. Et puis, David McLachlan Carr est l'invité de ce journal. Le coordonnateur humanitaire annonce qu'avec la perspective du retrait progressif de la MONUSCO, la présence du système de l'ONU va être renforcée dans le Kasaï où il a séjourné 3 jours durant. Madame, Messieurs, bonjour. Le projet agricole de Bukangalonzo a été un échec planifié dans sa conception. C'est ce que révèle l'inspecteur général des finances. Selon Jules Alinguete, ce projet a englouti plus de 200 millions de dollars du trésor public. Au cours d'un point de presse hier à Kinshasa, l'inspecteur général des finances est revenu sur les causes de l'échec du projet Bukangalonzo. Un autre point a été fait au cours du même rendez-vous avec la presse sur d'autres dossiers, dont celui de la gestion des fonds générés par le GOPAS. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima Aouta.
S'agissant du projet de Bukangalonzo, sur un budget global de 285 millions de dollars décaissés par le trésor public, l'IGF révèle que seuls 80 millions ont été réellement utilisés au bénéfice de ce projet. L'État a donc perdu 205 millions de dollars. Qu'est-ce qui explique la perte d'une si grosse somme d'argent? Jules Alinguete énumère quelques éléments.
Une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins.
Quant aux auteurs de ces gouffres, l'inspecteur général des finances renseigne que 6 personnes sont identifiées, dont 2 sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié et 2 autres Congolais dont l'un serait en fuite en dehors du pays. Parlant du dossier GOPAS, l'IGF révèle que de 2015 à 2019, la RVA a collecté 124 millions de dollars américains, mais seuls 118 millions sont retracés. 6 millions se seraient volatilisés dans la nature. Et concernant l'argent utilisé, 90% ont été utilisés dans les services aéroportuaires, mais 10% ont été affectés à des dépenses non concernées.
Sud Kivu, le gouverneur de province menace de sanctionner tous les services non autorisés et qui continuent à tracasser la population aux différents postes frontaliers. Il l'a dit hier au cours d'une séance de travail autour de l'ordre opérationnel aux frontières de la RDC. En effet, une vingtaine des services fonctionnent illégalement aux frontières en lieu et place de 4 services autorisés. Emmanuel Elamiji nous en parle.
L'ordre opérationnel sur le nombre de services habilités à œuvrer au poste frontalier n'est pas respecté dans la province du Sud Kivu. À ce jour, une vingtaine de services opèrent illégalement au poste frontalier Ruzizi premier avec le Rwanda, 15 services fonctionnent à l'aéroport de Kavumu, 20 services au Beach Mwanzi, 10 services sont au port de Kalundu et poste de Kavimvira à Uvira. Cette pléthore a comme conséquence la multiplicité des taxes et les tracasseries de voyageurs. Face à ces constats amers, Théo Kasingwabidje, gouverneur, insiste. Seuls la DGM, la DGDA, l'OCC et l'hygiène aux frontières sont autorisés d'opérer au poste frontalier. À cela s'ajoutent les services non apparents, dont la police de frontières et les services de renseignement civil et militaire. Une mise en garde sévère est adressée aux autres services tracasseurs. L'objectif, c'est de rendre fluide la circulation au poste frontalier, mais surtout de lutter contre la contrebande devenue endémique au Sud Kivu. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Nord Kivu voisin, flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché de Béniville. Certains analystes attribuent cette situation à la persistance de la pandémie du coronavirus, mais aussi à la recrudescence de l'insécurité dans les nouvelles zones attaquées par les EDF. C'est Kombi Katondolo.
Sur le marché de la ville de Béni, il s'observe depuis plus de 3 mois une montée vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Tenez par exemple pour le produit manufacturé importé, un bidon de 20 litres d'huile végétale qui s'est vendu à 23,5 $ s'achète aujourd'hui à 27 $ américains. Un sac de riz de 25 kg est passé des 19 à 23 $. Selon certains commerçants grossistes rencontrés, cette montée des prix articles manufacturés importés est due à la persistance de la pandémie de la COVID-19. Cette situation ne se limite pas qu'aux produits manufacturés importés. Elle s'observe également pour les produits locaux dans la région. C'est le cas d'une mesure de farine de manioc qui s'est vendue à 4000 francs congolais et passée à 8000 francs, soit les doubles du prix. Et pour le bidon de 20 litres d'huile de palme est passé de 19 à 27 000 francs congolais. Le sac de braise est passé de 20 000 francs à 50 000 francs congolais. Pour ce dernier cas, le membre de la FEC Béni que nous avons contacté attribue cette flambée des prix aux récentes attaques des ADR dans de nouvelles agglomérations qui fournissaient la ville de Béni à d'arrêts alimentaires. Pendant ce temps, c'est la paisible population qui paye le prix. Béni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, le Congo central enregistre de plus en plus des nouveaux cas de coronavirus. Ces cas sont dénombrés dans 5 zones de santé parmi les 31 que compte la province. En quelques semaines, 8 nouveaux cas se sont ajoutés aux 535 existants. Le ministre provincial Nestor Mandiango, qui confirme cette information, indique que des cas d'alerte sont signalés dans plusieurs zones de santé. Nestor Mandiango, qui craint une deuxième vague des cas de COVID-19 dans le Congo central, appelle la population à l'observance des gestes barrières. Le ministre provincial de la Santé du Congo central est au micro de Nana Plurich Mambou.
La province vient d'enregistrer 8 nouveaux cas de la COVID-19.
Il y a beaucoup de cas d'alerte qu'on est en train de sélectionner par ici, par là. Et déjà avec les 5, il y a beaucoup de contacts qu'il faut suivre pour ne pas tomber encore dans ce qu'on a connu dernièrement. Cela veut dire qu'il y a relâchement. Nous parlons chaque jour, mais les gens ne veulent pas très bien comprendre le message. Imaginez que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la COVID n'existe pas, alors que c'est une maladie qui est réelle, qui est en train d'entraîner des morts. Donc j'appelle la population du Congo central, essayons de mettre en application sur les gestes barrières. On nous demande de porter des masques, nous les bafouons, et éviter des salutations. Je suis en train d'observer des gens parfois dans la rue s'étendre des mains comme dans le passé. Donc ces réflexes continuent dans notre communauté. Alors qu'aujourd'hui nous devrons nous contenir face à ça, parce que la fin de l'état d'urgence, disait le chef de l'état, n'était pas la fin de la maladie. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes en train d'enregistrer de nouveaux cas, ça ne nous enchante pas. Il y a un arrêté qui existait pour dire plus d'organisation des funérailles dans des maisons comme dans des salles. Donc ici, je lance un appel vibrant aux administrateurs du territoire, les chefs de secteur, les chefs de quartier, d'être veillants par rapport à cela.
Retour à Béni. Le Fonds social pour la République vient de relancer une nouvelle phase de son projet intitulé « Projet pour la riposte sociale contre la crise consécutive à la maladie à virus Ebola ». Il s'étend sur 60 jours et sera exécuté par au moins 20 000 bénéficiaires dans 18 zones de santé dans le Grand Nord du Nord Kivu. C'est un projet qui concerne plusieurs axes de la ville et certains axes routiers de Béni, Butembo, Lubero, Kalunguta, Moussiedene et Kasuo. Isidore Kikukama, expert en environnement au sein du Fonds social, parle ici des activités en prélude du début du dit projet. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Le Fonds social organise une session de renforcement des capacités des jeunes intellectuels que nous voulons transformer en enquêteurs sur terrain. Les enquêteurs ont la lourde responsabilité de surveiller le chantier, de savoir le nombre de gens que nous avons recrutés à travers la loterie. Est-ce que ce sont ces personnes-là réellement qui sont actives sur terrain? Est-ce que ce sont les mêmes noms? Est-ce qu'il n'y a pas eu des jetons volés? Est-ce que la personne qui a été tirée au sort n'a pas donné le jeton à une autre personne? Est-ce que la personne qui a été tirée au sort n'est pas malade et s'est fait remplacer d'une manière illégale? Nous voulons éviter les soupçons, dire que voilà, le Fonds social est en train de privilégier une certaine catégorie de personnes. Et l'argent que le Fonds social amène aux communautés de Béni, c'est l'argent de nécessité. Les bénéficiaires, ce sont les gens qui ont le faible moyen de revenus. Alors les enquêteurs vont se rassurer réellement, est-ce que la personne qui fait, qui preste, n'a pas d'autre occupation après le travail de tumeur?
On en sait un peu plus sur le crash du petit porteur appartenant au parc national des Virunga. Accident survenu hier à Katale, environ 50 km au nord de Goma, territoire de Rutshuru. Ce drame a causé la mort d'un pilote congolais ainsi que 4 cultivateurs au moins qui étaient dans leur champ sur le lieu où l'aéronef s'est écrasé. Bernardin Nyangi nous raconte.
Alphonse Moussafir Gassachoya, 64 ans, un Congolais natif du territoire de Massissi, est père de deux enfants et le pilote qui est décédé dans ce crash d'avion, indique le parc national de Virunga dans son communiqué publié hier mercredi sur son site officiel. La victime s'est consacrée notamment à la formation d'une nouvelle génération de pilotes congolais sélectionnés parmi les éco-gardes du parc et les forces armées congolaises, ajoute ce communiqué. L'administration du parc annonce par ailleurs qu'une enquête approfondie va être menée pour élucider les causes de ce crash survenu hier mercredi en fin de la matinée dans le territoire de Rutshuru, à environ 500 mètres de la piste d'atterrissage de l'ICCN à Katale. Ce communiqué du parc ainsi que celui du ministère provincial de l'Environnement indique que le pilote était seul à bord de cet appareil qui, ayant raté son décollage, s'est écrasé au sol, blessant 4 paysans qui ont été aussitôt dépêché à l'hôpital de référence de Rutshuru pour des soins appropriés. Cet aéronef, qui était à destination de Lulimbi, un poste de patrouille de l'ICCN en plein parc national de Virunga, a été complètement endommagé, indiquent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Du côté du Sud Kivu, encore une catastrophe naturelle qui cause des dégâts humains dans le territoire de Calais. La pluie d'hier soir a fait 3 morts, plusieurs maisons englouties et des personnes disparues dans la vague des eaux des pluies. Même la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu à Goma est coupée en ce moment, conséquence d'un éboulement des terres avec inondations dans les villages de Bouchouchou et Nyamukubi. L'administrateur du territoire de Calais en appelle à l'assistance d'urgence. Sud Kivu toujours, la tribu de Banine d'où s'est dit prête à engager un dialogue avec la communauté Banyamulenge à condition que cette dernière soit sincère en vue de résoudre la crise dans les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi et Itombwe. Le dialogue intra-Banindu s'est clôturé hier à Ouvira en présence de plusieurs personnalités. Dans leur déclaration finale, les Banindu ont évoqué quelques problèmes externes qui les opposent aux Banyamulenge, notamment les tueries et assassinats ciblés des leaders et chefs coutumiers Banindu par les Banyamulenge, la création frauduleuse de la commune de Minembwe ainsi que l'appellation de l'ethnonyme Banyamulenge sont parmi les autres problèmes évoqués. Fiston Goma nous en dit plus.
La tribu Banindu demande à la communauté Banyamulenge de leur demander pardon. Il leur demande de respecter le chef de groupement à l'intérim de Bijombo et les autres chefs coutumiers issus de la tribu Banindu partout où ils se trouvent et d'abandonner l'hypocrisie. Bumbu Malite Job est député provincial élu de Fizi et membre de la tribu Banindu.
Si nous allons dans un dialogue sincère, nous allons oublier tout ce qui s'est passé parce que l'esprit de vivre ensemble, c'est dans de tous les participants.
À la question de neutraliser les colonels déserteurs de l'armée, Michel Makanika, de les poursuivre en justice et de traquer tous les groupes armés sans discrimination, l'Interpis et le gouvernement congolais envisagent d'initier une grande opération de démobilisation dans le moyen et haut plateau. Tommy Tambwe est chargé des engagements et plaidoyer à l'Interpis.
Un processus qui leur permet de mener une vie normale après avoir été longtemps dans une vie de rébellion. Formé à un métier, il devient utile dans la société. L'agriculture est prospère dans notre pays et ce sont les anciens combattants qui deviennent des véritables techniciens de développement. Déjà, il y a le projet pilote pour la République qui commence ici à Ouvira.
Le ministre provincial de l'Intérieur a représenté le gouverneur des provinces. Il a rappelé les participants leur obligation de traduire les engagements signés dans la réalité sur le terrain en vue de donner la chance au développement de la région du sud de la province. D'Ouvira, Fiston Mamayabala, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, la population de Manono vit dans la psychose après l'évasion le dimanche d'un gang prévenu de la prison centrale de Manono. Des cas de meurtre enregistrés sur les différents tronçons routiers et d'autres cas de vol dénoncés dans les villages environnant le centre de Manono. La population met tous ses abus sur le dos du gang. Les policiers commis à la garde de la maison carcérale sont arrêtés à cause de l'évasion. L'administrateur de territoire parle d'une évasion spectaculaire et appelle la population à collaborer avec les services de sécurité. François-Xavier Mibé.
L'arrestation des deux bandits présumés membres du gang a été rendue possible grâce à la bravoure des motards. Ces motards, dont le nombre n'a pas pu être précisé, ont été auparavant la cible d'une attaque perpétrée par les gangs sur l'axe Louboulé, à 35 km au sud-est du centre des Manono. Les motards victimes d'attaque ont décidé de pourchasser à moto les bandits jusqu'à leur dernier retranchement. 7 bandits membres du gang ont été appréhendés puis jetés en prison, comme le décrit ses témoins.
Ils avaient attaqué un groupe de motards, pendant qu'ils n'avaient pas beaucoup de munitions. Alors ces motards avaient accepté de mourir, parce qu'ils avaient volé d'abord la moto de l'un de l'air. Les motards ont dit non, ça exagère. Ils se sont mobilisés en grand nombre avec des motos. Ils ont tiré sur les motards, la foule avançait toujours, et ils étaient attrapés comme ça.
devant la police. Le gang a indiqué être composé des membres, les uns provenant de Lubumbashi et les autres de Kalemie. Le chef des bandes et son acolyte ont réussi à s'évader de la prison centrale de Manono. Une évasion qui fait vivre la population de Manono la peur au ventre. L'administrateur de territoire, Pierre Mukamba Kaseya.
Vraiment, c'est étonnant. La journée, et puis on n'a pas cassé le mur, est conforme. C'est pourquoi le dossier continue.
Kalemie, François Djabemibe, Radio Kapi.
Actualité internationale. Éthiopie. Alors que le conflit au Tigré est entré dans sa troisième semaine, la province est toujours coupée du monde et les rares informations proviennent surtout des communiqués des belligérants. Mais pour la première fois, des informations indépendantes ont été rendues publiques hier quand le comité international de la Croix-Rouge a pu visiter les hôpitaux de Gondar et de Mekele en manque de tout. L'ONG fait état d'une crise humanitaire très grave. Au deuxième jour de sa visite en Israël, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, doit avoir un entretien avec Benjamin Netanyahu. Il est également attendu dans une colonie israélienne et un site de pèlerinage chrétien de Cisjordanie et sur le Golan et ainsi devenir le premier secrétaire d'État américain à aller dans ces deux territoires considérés comme occupés par le droit international.
L'invité.
Le coordonnateur humanitaire David McLachlan Carr se félicite des programmes menés actuellement par les agences des Nations Unies dans la région du Kasaï, notamment dans l'assistance au profit des personnes vulnérables. Il annonce qu'avec la perspective du retrait progressif de la MONUSCO, la présence du système de l'ONU va être renforcée dans cette région où il a séjourné pendant 3 jours avec l'ambassadeur suédois et 6 chefs d'agence onusiennes. David McLachlan Carr est notre invité. Il s'entretient avec Joël Bofengo.
David McLachlan Carr, bonjour.
Bonjour.
Vous clôturez aujourd'hui votre visite dans la région du Kasaï. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Effectivement, aujourd'hui, après 3 jours, on va quitter Kananga. À la fin de notre mission dans les Kasaï, on a pu visiter beaucoup de projets qui sont opérationnalisés par les agences et fonds et programmes du système des Nations Unies. Je suis très contente avec la visite parce qu'on a pu constater aussi le bon travail qu'il fait à les Nations Unies pour renforcer le développement, livrer l'assistance humanitaire, mais aussi travailler avec les autorités provinciales pour construire une vraie paix dans les deux provinces de Kasaï central et la province de Kasaï. On a pu voir une variété de programmations, de développement, par exemple avec le PNUD, mais aussi assistance pour des personnes déplacées par OIM et HCR, dans le secteur des santé, par UNICEF et OMS, mais aussi on a pu voir comment aussi l'assistance que nous avons fournie pour les personnes plus vulnérables dans ces zones.
Est-ce que le projet mené ici par les agences des Nations Unies marche comme vous le souhaitez?
Bien sûr, il y a toujours comme le défi de mobiliser des ressources pour nos programmes. Mais maintenant, dans les Kasaï, c'est vraiment important avec le retrait progressif et responsable de la MONUSCO des Kasaï. Avec ce retrait qui est prévu à terminer avant le 30 juin 2021, nous devons en même temps renforcer la présence du système des Nations Unies, de l'équipe du pays dans les villes de Kananga, à Chikapa, mais aussi dans les autres Kasaï.
Quand vous dites renforcer la présence des agences, ça veut dire quoi concrètement? Comment ça va se présenter concrètement?
On est en train de formuler maintenant un programme conjoint d'assistance qui est orienté sur 4 axes. Les axes sont agréés avec les gouverneurs provinciaux, mais aussi au niveau de Kinshasa, sur, premièrement, de renforcer comme notre assistance au secteur agricole, surtout de lutter contre le problème de malnutrition et renforcer comme la sécurité alimentaire. Deuxièmement, nous allons renforcer l'accès aux services de base, le secteur de l'éducation et de la santé. Il faut renforcer comme l'accès du peuple, des provinces de Kasaï, aux services d'éducation et de santé. Troisièmement, c'est de travailler avec les gouvernements pour renforcer la gouvernance, la bonne gouvernance, renforcer aussi le système de justice. Alors, on va travailler avec la police, les FRDC, mais aussi avec le système pénitentiaire pour assurer le bon fonctionnement du système de droit pas les cinq provinces telles que ça. Et finalement, et quatrièmement, c'est l'autonomisation de la femme. On va travailler avec des programmes pro-féminines. On va essayer de livrer plus d'assistance pour les populations les plus vulnérables, les déplacés, mais surtout les femmes qui sont victimes de violences pendant les conflits des années 2016-2017. Je crois qu'un problème dans le Kassai, c'est l'éclatement des cinq provinces. Et avec l'appui de la Banque mondiale et autres institutions financières, on va travailler aussi avec le gouverneur pour assurer plus d'assistance pour l'infrastructure. Ça veut dire pour les routes qui lient les chefs-lieux des cinq provinces avec les grands marchés.
Est-ce que la région est prête pour le retrait de la MONUSCO?
Moi, je crois que oui, la région est prête pour le retrait de MONUSCO. On n'a pas beaucoup de temps. On va en effet finaliser le retrait dans les prochains 8 mois. Mais je crois qu'avec le lancement de nouveaux programmes pour les Kassai, à partir de janvier de l'année prochaine, on va vraiment avoir une feuille de route pour renforcer l'assistance dans cinq provinces. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est une zone post-conflit qui reste toujours fragile, mais je crois avec l'assistance des bailleurs de fonds, on va réussir dans les Kassai.
David Maclaklankar, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le coordonnateur humanitaire s'entretenait avec Joël Bofengo. Par ici, nous mettons un terme à ce journal. Supervisé par Pélé Kipela Mondo, coordination de l'Ezechikota Chivueta, Alain Goy à la mise en onde et Belinda Bosuma à la présentation. Merci.